Laudetur Jesus Christus.
Un premier débat télévisé très attendu aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Devant les caméras de CNN, le président démocrate a souhaité montrer qu'il pouvait tenir le débat malgré son âge, une mission difficile. À Bruxelles, les responsables des 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour choisir le futur exécutif, commission, conseil européen et diplomatie. Un sommet marqué par les oppositions de la Hongrie et de l'Italie. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Dans ce journal, les Iraniens aux urnes pour élire le successeur au président Raïssi, mort il y a 2 mois dans un accident d'hélicoptère. Retour également sur ces tensions récurrentes entre Taïwan et la Chine. Pékin ne cesse ses incursions de navires militaires dans les eaux de son voisin. Et puis dans notre gros plan, ce matin, direction la Mauritanie, où se tiendra demain l'élection présidentielle. Le pays reste un modèle de stabilité par rapport à ses voisins du Sahel, où des juntes militaires ont pris le pouvoir.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, c'était un débat télévisé très attendu aux États-Unis dans la course à la Maison-Blanche. Joe Biden et Donald Trump se sont donc affrontés hier soir devant les caméras de CNN. L'actuel président démocrate et son prédécesseur ont pu étaler toutes leurs différences sur de nombreux sujets, inflation, immigration, guerre au Proche-Orient ou en Ukraine. Pour Joe Biden, l'enjeu était de montrer qu'il pouvait tenir le débat malgré son âge, 81 ans, et Donald Trump qui a souvent répété ses slogans sans apporter de réponse très précise. À Atlanta, le compte-rendu de notre correspondant Edvard Meil.
Dès les premières minutes du débat, Joe Biden cherche ses mots et semble affaibli. Sa performance était très attendue des électeurs, avec les nombreuses critiques sur son âge. Et puis un Donald Trump plus calme qu'à l'ordinaire, avec un ton plus mesuré. Mais cela ne l'a pas empêché d'attaquer son adversaire. « Je n'ai pas compris la fin de sa phrase, je ne sais même pas si lui l'a comprise », a lancé Donald Trump à Joe Biden. Et Joe Biden qui a qualifié Donald Trump d'imbécile et de loser. Après la première demi-heure, Joe Biden a durci le ton avec des réponses plus précises, tandis que Donald Trump a souvent botté en touche, sans répondre aux questions des journalistes. Son principal argument, Joe Biden détruit le pays avec sa politique migratoire et que lui, Donald Trump, fermerait les frontières. Le candidat républicain a tout de même clarifié sa position sur l'avortement. Il s'est dit contre, mais avec des exceptions, pour les viols, l'inceste ou des risques pour la santé de la mère. Donald Trump a également affirmé un grand nombre d'inexactitudes ou de fausses informations. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Toujours aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté hier un accord d'indemnisation de 6 milliards de dollars passé entre le laboratoire pharmaceutique Purdue et des États américains dans la crise des opiacés. Et selon la Cour, cet accord empêche la justice de poursuivre la famille Sackler, propriétaire de Purdue et qui a mis sur le marché l'oxycontine, un antidouleur extrêmement addictif. La crise des opiacés qui a fait des ravages aux États-Unis, plus de 500 000 morts en 20 ans. Le Parlement argentin a approuve définitivement le programme de réformes économiques du président Javier Milei, celui-ci marqué par une austérité budgétaire drastique et a pour ambition de faire baisser l'inflation qui a atteint 211% en 2023. L'Argentine qui est entrée en récession et malgré les promesses présidentielles, opposition et mouvements sociaux s'inquiètent d'une pauvreté galopante dans le pays. On connaît désormais les noms du futur exécutif européen. Hier, lors d'un nouveau sommet à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont tombés d'accord pour les nominations aux postes clés des institutions, les fameux top jobs. Commissions, conseils et services diplomatiques seront présidés par un représentant des trois familles politiques qui reconduisent leur coalition tripartite. Le centre droit, les sociaux-démocrates et les centristes. Ils s'étaient mis d'accord entre eux en amont, mais le sommet n'a pas été de tout repos, car ce tiercé a été vécu comme un diktat par le Hongrois Viktor Orban et l'Italienne Giorgia Meloni. Et tout n'est pas encore réglé, car non seulement il faudra compter avec eux, mais en outre, il reste encore à franchir la barre du Parlement européen. À Bruxelles, Pierre Benazé.
L'ancien Premier ministre portugais António Costa a la certitude de devenir le nouveau président du Conseil européen le 1er décembre, à la suite de Charles Michel. Il a été formellement élu, sa nomination est donc acquise. La situation de l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission et de l'Estonienne Kaja Kallas à la tête de la diplomatie européenne n'est en revanche pas encore définitive. Le Conseil européen se choisit son président en toute souveraineté, mais pour les deux autres postes, il faut l'aval du Parlement européen. Elles seront donc auditionnées toutes deux lors de la prochaine session plénière, vers le 17-18 juillet, et elles vont devoir convaincre, car rien n'est joué d'avance. Difficile de faire un pronostic pour Kaja Kallas. Toutefois, ancienne députée européenne elle-même, elle arrive avec une aura de respectabilité et de fermeté face à la Russie, qui devrait l'aider. En revanche, Pour Ursula von der Leyen, cette audition reviendra à passer sous les fourches caudines du Parlement, car elle s'y est attirée des critiques pendant les 5 années écoulées. En 2019, elle avait d'ailleurs eu du mal à obtenir le feu vert du Parlement, décroché à quelques voix près. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et également présent hier dans la capitale européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky venu signer un nouvel accord de sécurité, accord avec l'Union européenne. Le chef de l'État ukrainien qui a pu également s'entretenir en privé avec plusieurs responsables européens. Sur le terrain de la guerre, la solidarité avec le peuple ukrainien ne se dément pas. À commencer par celle du pape François qui a fait don d'une nouvelle ambulance. Elle est arrivée hier dans l'ouest de l'Ukraine, conduite par le cardinal Krajewski, le responsable de l'aumônerie apostolique du Vatican, le cardinal polonais qui est venu aussi offrir au nom du pape des médicaments. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Iran pour une élection présidentielle anticipée destinée à désigner le successeur d'Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Pour ce scrutin, 4 candidats sont en lice, 3 conservateurs et un réformateur qui pourrait créer la surprise. Le choix final, Jean-Charles Puzolu, est entre les mains de 61 millions d'électeurs.
Effectivement, Olivier, au terme d'une campagne présidentielle organisée à la hâte après la mort accidentelle d'Ebrahim Raïssi, un candidat pourrait bien jouer les troubles faits. Cet homme s'appelle Massoud Pezeshkian, il a 69 ans, médecin d'origine azérie. Il était pratiquement inconnu lorsque les gardiens de la Révolution ont autorisé sa candidature. Sauf que ses propos directs pendant les quelques semaines de campagne ont redonné espoir au camp des réformateurs modérés, restés ces dernières années dans l'ombre des conservateurs et des ultra-conservateurs. Massoud Pezeshkian a encaissé le soutien de 2 anciens présidents, Khatami et Rouhani, et pourrait bien amener cette élection au moins à un deuxième tour le 5 juillet. Car dans le camp des conservateurs, 3 candidats exposent leur division. Division qui porte essentiellement sur 2 points. Le dossier nucléaire, d'une part, entre partisans et opposants, un rapprochement avec l'Occident, et l'identité islamique de la République, d'autre part, comprenez par là le port du voile, et tout le monde se souvient du soulèvement provoqué par la mort de Mahsa Amini suite à son interpellation pour non-respect du code vestimentaire. C'était en décembre 2022, soulèvement violemment réprimé.
Jean-Charles Puzolu, et une des clés de ce scrutin sera la participation. 1 électeur sur 2 seulement avait voté à la dernière présidentielle en 2021. Une nouvelle purge en Chine. 2 anciens ministres de la Défense ont été exclus hier du Parti communiste. Ils sont tous les deux visés par des enquêtes pour corruption, l'un des chevaux de bataille du président Xi Jinping. Une expulsion qui a eu lieu 3 semaines avant le plénum du Parti communiste chinois. La Chine qui ne cesse de montrer sa puissance face à son voisin taïwanais. Hier, le ministre de la Défense de l'île, revendiqué par Pékin, a fait état de pas moins de 35 avions chinois détectés dans l'espace aérien en 24 heures. Des navires sont également entrés dans les eaux taïwanaises. Selon le ministre de la Défense de Taïwan, Pékin tente de normaliser ses exercices, en particulier autour des îles taïwanaises de Kinmen, à Taipei, Mandier Shmati.
Ces derniers temps, Pékin ignore de plus en plus l'espace maritime restreint défini par Taipei autour des îles Kinmen. Pour rappel, bien qu'étant sous le contrôle de Taïwan, elles sont situées très proches de la Chine, le point le plus proche étant seulement à 3 km du continent. Cette semaine, 4 navires de garde-côtes chinois sont entrés dans les eaux restreintes. Le ministre de la Défense taïwanais, Wellington Koo, a réagi ce mercredi en déclarant que Pékin tentait de normaliser les patrouilles maritimes autour de ces îles. Chaque jour, de nouvelles activités chinoises sont aussi enregistrées au large de l'île principale de Taïwan. Selon les gardes-côtes taïwanais, de janvier au 25 juin de cette année, leurs patrouilleurs ont expulsé un total de 825 bateaux chinois pénétrant dans les eaux contrôlées par Taipei. Les tensions entre les deux voisins ne cessent de s'accroître. Lors de son discours d'investiture le 20 mai, le président Lai Ching-te avait déclaré que les 2 rives du détroit n'étaient pas subordonnées. Ce 21 juin, la Chine a réagi en dévoilant une loi à effet immédiat, sanctionnant toute personne qui soutiendrait l'indépendance de Taïwan. Les châtiments prévus vont jusqu'à la peine de mort. Taipei, Mandy Eshmati pour Radio Vatican.
Et on se retrouve dans quelques secondes après cet appel à la générosité.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Ce Ce matin, dans notre dossier, nous vous emmenons en Mauritanie. Les Mauritaniens qui sont appelés aux urnes demain samedi pour élire leur prochain président. Pour ce premier tour des élections, 7 candidats sont en lice, dont l'actuel chef d'État, Mohamed Chel El Razouani. Au pouvoir depuis 2019, il reste le grand favori de ce scrutin. Parmi les autres 6 candidats de l'opposition, 2 retiennent l'attention, un militant des droits de l'homme, Biram Daaibed, et le président du parti islamiste Tewassoul, Sidi El Mokhtar. Ils sont les deux principaux adversaires du président sortant. Le multipartisme a pris une coloration ethnique dans ce pays essentiellement désertique d'un peu plus de 4,5 millions d'habitants et les candidats de l'opposition ne font pas forcément le poids dans cette élection. Éclairage ce matin sur la Mauritanie, pays stable du Sahel, avec Hichem Ben Yaïch, il est spécialiste de l'Afrique, rédacteur en chef du magazine en ligne New African.
Les Mauritaniens ont l'impression de voir le jeu déjà fait. Certes, il y a 7 candidats, dont celui du président sortant. C'est vraiment des élections faites à l'avance, en quelque sorte. Mais bon, c'est quand même une bonne opération d'exercice citoyen. C'est quand même important d'aller voter, d'être impliqué dans la cité.
Mohamed Oul Razouani est candidat à sa propre succession. Quel est le bilan de son premier mandat ?
En réalité, il a été vraiment contrarié par quelque chose qui le dépasse. Le Covid-19 d'abord, ensuite la guerre en Ukraine. Ça c'est sur le plan international, mais ça a des retombées de politique intérieure. Et évidemment, le bilan est très contrasté. C'est un pays où tout est à développer. Il y a un problème d'eau, problème d'électrification, problème de sous-développement. C'est un pays qui ne manque pas de moyens et d'atouts. Hein. Il a du pétrole qu'il partage avec le Sénégal.
L'exclusion de l'ancien président Abdelaziz, emprisonné pour enrichissement illicite, autrefois mentor de Razouani, élimine un concurrent de taille.
Aujourd'hui, évidemment, Razouani veut avoir les mains libres. Il ne veut pas de concurrent. Il faut que le jeu soit ouvert. Et c'est très important dans un pays qui a des frustrations énormes. Le multipartisme, malheureusement, a pris une coloration ethnique. Et c'est ça le malheur de ce jeu. Ça fausse tout. Razouani est décidé de gagner cette élection pour un deuxième mandat. Et on va voir.
Quelles sont les chances pour les autres candidats ?
C'est vraiment ce qu'on appelle des candidatures de témoignage. En fait, ce sont des candidatures de gens qui ils savent qu'ils ne parviendront pas à avoir le pouvoir. Ça montre bien qu'ils sont là, qu'ils occupent le terrain pour l'opinion, pour l'international, mais ils n'accéderont pas au pouvoir. Mais c'est important de participer et de se battre. Et c'est bien qu'ils soient là, ça titille le pouvoir et ça éveille ses réflexes. Ils veulent se battre pour le pluralisme, pour la Mauritanie démocratique, et voilà, donc aux électeurs de décider. Et c'est important de montrer, même si les chances restent minimes, c'est important d'apprendre la différence.
Dans ces élections, l'ingérence du mouvement séparatiste Polisario inquiète certains qui craignent qu'un président mauritanien favorable à ce mouvement pourrait compliquer les relations avec le Maroc et impacter surtout la stabilité régionale.
C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Maroc, le Maroc est un pays qui est en train de construire son émergence. Et je pense que le Polisario réactivé ou utilisé en Mauritanie, le Maroc ne va pas rester inerte. Et je pense que les tensions seront graves, parce que vraiment aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, cette montée des populismes, cette espèce de tension partout, le Sahel et dans d'autres régions, en Afrique, le Maghreb, on oublie la Libye, on oublie ces tensions entre l'Algérie et le Maroc qui pèsent lourdement, surtout. D'ailleurs, la position de la Mauritanie est un pays de l'entre-deux. Hein. Vous êtes en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Ça peut être aussi une équation, un pays de dialogue, un pays de concertation pour rapprocher. Quand on voit la structure de la société, je pense que c'est jouable, mais et la personnalité du chef de l'État est aussi importante dans ça.
La Mauritanie à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Myriam Sandouno. Hichem Ben Yaïch, spécialiste de l'Afrique et expert en géopolitique, était l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. L'information du pape, de l'Église et du monde reviendra à 13h en direct de Rome. D'ici là, n'oubliez pas vaticannews.va. Excellente journée à tous.